L'autobus du paradis, chapitre 5 et 6. Il y eut un moment de silence sous les cèdres, puis on entendit un bruit sourd. Paf, plouf, et deux lions entrèrent en bondissant dans la clairière. Leurs pattes robustes semblaient chaussées de velours. Les yeux fixés l'un sur l'autre, ils se mirent à simuler par jeu un combat. Leurs crinières ruisselaient d'eau comme s'ils sortaient d'un bain, et de fait j'entendais tout proche le murmure d'une rivière qui devait couler juste derrière les arbres. Point du tout enchanté de cette compagnie, je me hâtai de m'éloigner et me mis en quête de la dite rivière. Bientôt je l'atteignis, non sans avoir dû pour cela m'ouvrir un passage dans d'épais buissons tout fleuris. Il y en avait jusque sur ses bords. La surface de l'eau n'était pas plus ridée que celle de la Tamise, mais le courant en était aussi fort que celui d'un torrent de montagne. L'eau était d'une couleur vert pâle quand elle passait sous les arbres, mais même alors, elle restait tellement claire que j'aurais pu compter les galets qui couvraient le fond. Non loin de moi, j'aperçus un autre des êtres étincelants. Il était nu, et son corps était d'une blancheur presque aveuglante. Il conversait avec le spectre à la voix cultivée qui m'avait adressé la parole dans le bus. Celui-ci semblait maintenant porter des guêtres. « Je suis enchanté de te voir, mon garçon, » disait-il à l'esprit lumineux. « Je parlais à ton pauvre père l'autre jour, et je me demandais où tu pouvais bien être. »« Vous ne l'avez pas amené ?»« Eh bien non, il habite très loin de l'arrêt du bus, et pour être tout à fait franc, il est devenu depuis peu un rien bizarre, un rien difficile. Pour tout dire, il semble parfois perdre les pédales. Tu le sais mieux qu'un autre, il n'a jamais eu envie de faire beaucoup d'efforts. » Rappelle-toi comment il s'assoupissait chaque fois que nous nous mettions, toi et moi, à parler de choses sérieuses. Ah, Dick, je n'oublierai jamais certaines de nos conversations. J'espère toutefois que tu as un peu changé d'avis maintenant. Vers la fin, avoue-le, tu étais devenu passablement étroit d'esprit, mais je suis sûr que tu en es revenu. Que voulez-vous dire? Eh bien, n'est-il pas évident que tu ne raisonnais plus très juste en ce temps-là? N'en es-tu pas arrivé à croire littéralement au ciel et à l'enfer? Mais n'avais-je pas raison d'y croire? En un certain sens, oui, d'accord, à condition de prendre les choses sur le plan spirituel. Moi aussi, mon garçon, j'attends encore le royaume, mais je ne mêle à cette espérance ni superstition ni mythologie. Pardon, où vous imaginez-vous donc avoir été? Ah, je comprends, tu veux parler de cette ville grise où l'on vit de l'espoir de voir arriver le matin. Nous devons tous vivre d'espoir, n'est-ce pas? Et où il y a de l'espace pour un progrès indéfini. Et tu veux dire que c'est là, en un sens, que se trouve le ciel, si seulement on a des yeux pour voir. L'idée est belle, je l'avoue. Ce n'est pas là du tout, mais pas du tout ce que je veux dire. Est-il possible que vous ne sachiez pas où vous avez été? Maintenant que tu m'en parles, je me rends compte que nous ne lui avons jamais donné le nom à cette ville. Comment donc l'appelez-vous, vous autres?
Nous l'appelons Enfer.
Il ne faut pas parler crûment de ces choses-là, mon cher. Je ne suis peut-être pas très orthodoxe dans le sens que tu donnes à ce mot, mais mon sentiment très net est que de telles questions doivent être discutées avec simplicité, sérieux et respect.
Parler de l'enfer avec respect. Je répète ce que je vous ai dit. Vous avez été en enfer. Toutefois, si vous n'y retournez pas, vous pouvez l'appeler purgatoire.
Vas-y, mon garçon, vas-y. C'est bien toi, cela. Tu vas sûrement me dire maintenant pourquoi, à ton avis, j'ai été envoyé là-bas. Sois tranquille, je ne me fâcherai pas.
Mais ne le savez-vous donc pas? Vous avez été mis là parce que vous étiez un apostat.
« Parles-tu sérieusement, Dick ?»«
Très sérieusement. »«
Je ne m'attendais pas vraiment à celle-là. Crois-tu sincèrement qu'on puisse être puni pour avoir professé loyalement certaines opinions, même si l'on suppose pour les besoins de la cause que ces opinions étaient erronées ?»«
Estimez-vous donc qu'il n'existe pas de péché de l'intelligence ?»«
Il y en a, Dick, il y en a. Citons... les préjugés indéracinables, la malhonnêteté intellectuelle, la pusillanimité, l'immobilisme. Mais des opinions sincères, soutenues avec courage, ce ne sont sûrement pas des péchés.
C'est vrai, toutes nos conversations d'autrefois allaient dans ce sens, jusqu'au jour où, vers la fin de ma vie, je tombais, comme vous le disiez tout à l'heure, dans l'étroitesse d'esprit. Tout cela dépend de ce qu'on appelle des opinions sincères. Les miennes l'étaient, en tout cas, et plus que sincères, héroïques, et je les ai affirmées hardiment. Quand, par exemple, la doctrine reçue de la résurrection a cessé de s'imposer à l'esprit critique dont Dieu m'avait pourvu, je l'ai rejetée ouvertement. C'est alors que j'ai prêché mon fameux sermon, un vrai défi lancé à tout le chapitre. J'avais pris tous les risques. Fameux risque, en vérité. Que pouvait-il arriver d'autre que ce qui est effectivement arrivé? La célébrité, des livres qui se vendent bien, des invitations à prendre la parole un peu partout, et finalement, l'épiscopat.
« Dick, mon cher, ce n'est pas digne de toi de parler ainsi. Que prétends-tu donc insinuer ?»«
Je n'insinue rien du tout. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, je sais. Soyons francs. Nos opinions d'alors n'étaient pas sincèrement nôtres. Nous étions entrés en contact avec certains courants de pensée et nous nous y étions plongés simplement parce qu'ils nous paraissaient modernes et avaient du succès. À l'université, vous le savez bien, c'est d'une façon quasi automatique que nous nous sommes mis à écrire le genre de dissertation qui devait nous valoir des bonnes notes et à dire de ces choses que l'on applaudit. Quand donc, au cours de notre vie, avons-nous osé regarder en face, seuls avec nous-mêmes, la vraie question, celle qui commande tout le reste? Est-ce que, en définitive, le surnaturel ne serait pas une réalité? Quand avons-nous réellement lutté contre l'effritement de notre foi?
« Si tu veux par là esquisser la genèse de la théologie libérale dans son ensemble, je répondrai que tu la calomnies. Veux-tu dire que des hommes tels que…
Je n'ai que faire de ces généralités, et personne ici ne m'intéresse que vous et moi. Pour l'amour de vous-même, souvenez-vous, vous savez bien que l'un et l'autre nous trichions. Nous ne voulions pas regarder vraiment la vérité en face. Nous avions peur de professer une doctrine du salut qui parut simpliste, peur de rompre avec l'esprit de notre temps, peur de nous couvrir de ridicule, peur surtout de nourrir de vraies craintes et de vraies espérances spirituelles.
Je suis loin de nier que des jeunes gens puissent commettre des erreurs, se laisser influencer par des modes. Et cependant, la question n'est pas de savoir comment les opinions se forment, mais si elles sont probes, loyales, exprimées avec sincérité.
Naturellement, nous étant laissés aller à la dérive, ne luttant plus, ne priant plus, laissant libre cours à toutes nos pulsions, nous sommes parvenus à ce point où la foi n'existait plus pour nous. De la même façon qu'un jaloux en arrive à croire les pires calomnies sur son meilleur ami, ou qu'un ivrogne en vient à penser qu'un petit verre de plus ne lui fera pas de mal, de telles croyances sont sincères en ce sens qu'elles se présentent comme des faits psychologiques dans l'esprit d'un homme. Si c'est cela que vous entendez en parlant de sincérité, oui, je l'accorde, nos opinions étaient sincères, mais les erreurs qui sont dans ce cas sincères ne sont pas pour autant exemptes de culpabilité.
Oh, dans un instant, tu vas légitimer l'Inquisition.
Pourquoi? Sous prétexte que le Moyen-Âge a erré dans une direction, s'ensuit-il qu'on ne se trompe pas en prenant la direction opposée?
Voilà qui est intéressant, s'écria le spectre épiscopal. C'est de fait un point de vue qui peut se défendre.
Oui, certainement, c'est un point de vue. Entre-temps, il n'y a pas d'entre-temps. Tout cela, c'est de l'histoire ancienne. Nous ne jouons plus. Si j'ai parlé du passé, du vôtre et du mien, c'est seulement pour vous en détourner à jamais. Une bonne torsion du poignet et hop, la dent est arrachée. Vous pouvez tout reprendre au point de départ, comme si rien ne s'était passé, blanc comme neige. C'est vrai, vous savez, il est en moi, lui. Pour vous, et il a ce pouvoir. J'ai fait un long voyage pour venir à votre rencontre. Vous avez su ce qu'est l'enfer. Maintenant, le ciel est en vue. Êtes-vous disposé à vous repentir tout de suite et à croire?
Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi ce à quoi tu veux en venir.
Je ne veux venir à rien, dit l'esprit. Je vous demande de vous repentir et de croire.
Mais mon garçon, je suis déjà croyant. Nous ne sommes peut-être pas d'accord sur tous les points, mais tu me juges mal si tu ne comprends pas que ma religion est réelle et qu'elle est pour moi quelque chose de précieux.
« Bien, dit l'autre, et comme s'il changeait son plan d'action, voulez-vous me faire confiance ?»«
Et de quelle façon ? Voulez-vous venir avec moi jusqu'aux montagnes? Cela vous fera mal d'abord, il faudra que vos pieds s'endurcissent. La réalité est rude au pied des ombres, mais voulez-vous venir?
C'est à voir, je suis tout prêt à examiner cette possibilité, mais naturellement je voudrais d'abord obtenir certaines assurances. Garantis-moi que là où tu vas me conduire, je trouverai un champ plus vaste pour exercer mes aptitudes, ou faire valoir les talents que Dieu m'a confiés. Et puis, un climat de libre recherche. En un mot, tout ce que suppose la civilisation et qu'exige, disons, la vie de l'esprit.
Eh bien non, je ne puis rien vous promettre de semblable. Pas de champ où exercer vos aptitudes, on n'a pas besoin de vous là-bas. Et quant à vos talents, tout ce que vous aurez à faire, ce sera de demander pardon de les avoir si mal employés. Nul climat de recherche non plus, car c'est là-bas le lieu des réponses. « Non des questions, et vous verrez la face de Dieu. »
Tout cela est bien beau, mais demande à être interprété. Personnellement, je considère qu'il n'existe pas de réponse capable de clore une discussion. Le vent frais de la recherche ne doit jamais cesser de souffler dans notre esprit. Examinez toutes choses, 1 Thessaloniciens 5:21. Mieux vaut voyager avec un grand espoir au cœur que d'arriver platement au terme.
Si ce que vous dites était vrai et reconnu comme tel, comment pourrait-on jamais voyager avec l'espoir au cœur? Il n'y aurait rien à espérer.
Mais toi-même, tu dois bien sentir qu'il y a quelque chose d'étouffant dans l'idée de finalité. Ce qui en résulte, mon garçon, c'est l'immobilisme. Et qu'y a-t-il de plus destructeur pour l'âme que l'immobilisme?
Vous croyez cela parce que jusqu'à présent, vous n'avez eu de la vérité qu'une expérience purement cérébrale. Mais je vous propose de vous conduire là où vous pourrez la savourer comme un miel délicieux, et vous laisser embrasser par elle comme par une fiancée. Votre soif sera enfin étanchée.
Oui, sans doute. À vrai dire, je n'ai pas conscience d'avoir soif d'une vérité toute faite, d'une vérité qui mettrait fin à toute activité intellectuelle. Or, c'est bien cela que tu veux dire, n'est-ce pas? Ou bien cette vérité laissera-t-elle pour moi la porte ouverte au libre jeu de l'esprit? Qu'en dis-tu, Dick? Je me sens obligé d'insister là-dessus.
Libre jeu, oui, de la même manière qu'un homme est libre de boire quand il boit, mais il n'est plus libre alors de rester altéré.
Le spectre sembla prendre le temps de réfléchir, puis
« Je n'arrive pas à tirer quoi que ce soit de cette idée, » murmura-t-il.
« Écoutez, répliqua l'esprit lumineux, vous avez été un enfant. Vous saviez alors pourquoi la recherche était faite. Quand vous posiez des questions, c'était pour recevoir des réponses, et vous étiez tout heureux quand vous les aviez obtenues. Redevenez cet enfant, redevenez-le tout de suite.
Pardon, quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 1 Corinthiens 13:11.
Vous vous trompez du tout au tout. La soif est faite pour l'eau qui désaltère, la recherche pour la vérité, ce que vous appelez le libre jeu de l'esprit, n'a pas plus de rapport avec la fin pour laquelle l'intelligence vous a été donnée que la masturbation n'en a avec le mariage.
Si nous ne savons pas rester respectueux, gardons-nous du moins de devenir obscènes. L'idée qu'à mon âge, je devrais retourner à la curiosité naïve de mon enfance me paraît complètement saugrenue. Quoi qu'il en soit, cette façon de concevoir la pensée en termes de questions et de réponses ne vaut que pour des réalités concrètes. Avec les problèmes religieux ou philosophiques, nous nous trouvons sûrement à un niveau différent.
Ici, nous ne savons rien de la religion. Nous ne connaissons que le Christ. Pas question non plus de spéculation philosophique. Venez voir, je vous conduirai à la réalité éternelle, à celui qui est le Père de toute réalité.
« Je ne puis que m'opposer de toutes mes forces à une représentation qui fait de Dieu une réalité. Dire de lui qu'il a il est la valeur suprême serait sans doute une définition plus adéquate. C'est à peine si... »«
Ne croyez-vous même pas à son existence ?»«
À son existence? Qu'est-ce que c'est d'abord l'existence? Tu vas sans doute encore me parler d'une réalité statique, toute faite, d'une réalité qui serait là et que nos esprits devraient simplement accueillir en s'y conformant. » Ce n'est pas de cette manière qu'on peut cerner le mystère. S'il existait un être tel que tu le décris, ne m'interromps pas, je t'en prie. Franchement, il n'aurait pour moi aucun intérêt. Au point de vue religieux, il n'aurait aucune signification. Dieu est à mes yeux quelque chose de purement spirituel. Il est l'esprit de douceur, de clarté, de tolérance, de service aussi. Tu entends, mon cher Dick, de service. C'est là une chose que nous ne devrions jamais oublier.
Si la soif de l'intelligence est réellement morte en vous, l'être lumineux s'interrompit comme pour peser ce qu'il allait dire. Puis, tout à coup, êtes-vous du moins encore capable de désirer le bonheur ?
Le bonheur, mon cher Dick, tu le verras mieux en vieillissant. Le bonheur se trouve sur la route du devoir. Cela me rappelle, grand Dieu, j'allais l'oublier, je ne puis évidemment t'accompagner, je dois être de retour vendredi prochain pour lire une communication à la Société de théologie. Mais oui, il y a une intense vie intellectuelle là-bas, pas toujours de très haute qualité, il faut l'avouer. On y observe un certain manque de fermeté dans la pensée, une légère confusion dans les esprits. C'est justement en cela que je pense pouvoir leur être utile. Ils s'y rencontrent encore des jalousies regrettables. Je ne sais pourquoi on dirait que les gens sont moins capables qu'autrefois de maîtriser leur humeur. De toute façon, on ne doit pas trop attendre de l'humaine nature. Je sens que je peux faire du bon travail parmi eux. Mais tu ne m'as même pas demandé en quoi traiter ma communication. Eh bien, voici. Je pars de ce texte de l'Épître aux Éphésiens qui parle de croître jusqu'à la pleine stature de Christ. Et j'en tire une idée dont je suis sûr qu'elle t'intéressera. Je montre comment on oublie trop facilement que Jésus, ici le spectre inclina la tête, était relativement jeune quand il est mort. S'il avait vécu plus longtemps, on peut penser qu'il aurait amendé certaines de ses opinions de jeunesse en prenant de l'âge, ce qu'il aurait d'ailleurs pu faire s'il avait montré un peu plus de tact et de patience. Je demanderai donc à mon auditoire de réfléchir à ce qu'auraient pu être chez lui les opinions de l'âge mûr. Question des plus intéressantes, n'est-ce pas ? Pense donc, combien le christianisme aurait été différent si seulement son fondateur était parvenu à la pleine stature. Je terminerai en faisant remarquer combien cette mise en cause accentue la portée de la crucifixion. On mesure alors, plus qu'on ne l'avait jamais fait jusqu'à présent, quel désastre elle a représenté pour l'humanité, quel tragique gâchis, tant de promesses restées sans lendemain. « Oh, tu dois vraiment t'en aller ? Eh bien, moi aussi, il faut que j'y aille. Au revoir, mon garçon. Ça a été pour moi un grand plaisir de te revoir. Stimulant et encourageant. Au revoir, cher ami, au revoir. » Là-dessus, le spectre s'inclina légèrement et fit à son interlocuteur un sourire plein d'onction, ou du moins ce qui pouvait le mieux en tenir lieu sur des lèvres sans substance. Puis il se retourna et partit en fredonnant l'air « Cité de Dieu, immense et lointaine. » Mais je ne gardais pas longtemps les yeux fixés sur lui. Une nouvelle idée m'était venue. « Si, me dis-je, l'herbe est ici dure comme pierre. L'eau ne le serait-elle pas assez, elle aussi, pour me permettre de marcher dessus ?» Je mis un pied sur la rivière et mon pied n'enfonça pas. Alors je m'enhardis et tentai d'aller plus loin. Mais aussitôt je tombai la tête la première et récoltai quelques ecchymoses. J'avais oublié que, si ferme qu'il fût sous mes pieds, le courant n'en était pas moins rapide. Quand je me relevai, je pus constater que je me trouvais à quelque 30 mètres plus bas. Mais cela ne m'empêcha pas de refaire le chemin en sens inverse. Je dus seulement marcher très vite, tout en ne progressant que lentement. Douce et fraîche, la surface de l'eau brillante était un délice pour mes pieds. Je marchai dessus pendant près d'une heure, sans avancer pour autant de plus de 200 mètres. Puis il devint difficile de progresser davantage, tant le courant se faisait rapide. De gros flocons et des îlots d'écume se dirigeaient vers moi en tourbillonnant, et quand je n'arrivais pas à les éviter, ils me meurtrissaient les jambes. La surface de l'eau devenait inégale. Il s'y formait des creuses et des bosses, qui donnaient aux galets du fond des figures grotesques. Je finis par perdre l'équilibre, et je dus remonter sur la rive à quatre pattes. Comme celle-ci était faite en cet endroit de larges pierres plates, je pus continuer ma route sans trop me faire mal aux pieds. De la forêt sortait une clameur immense et douce. Quelques heures plus tard, au détour d'un méandre, j'eus l'explication du bruit que j'entendais. Devant moi, une vaste pente verdoyante dessinait un large amphithéâtre, enfermant un lac aux eaux écumantes. Une chute s'y déversait en bondissant sur des rochers multicolores. Une fois de plus, je constatai qu'il s'était passé dans mes sens quelque chose qui leur permettait
de recevoir des impressions excédant leur capacité naturelle. Sur la Terre, en effet, il m'eût été impossible d'embrasser d'un seul regard un panorama aussi vaste, et le bruit que faisait la chute aurait jeté la terreur à 20 lieues à la ronde. Ici, une fois le premier saisissement surmonté, ma sensibilité enregistrait son et vision de la même manière qu'un vaisseau bien construit accueille une vague puissante. J'exultais. Le bruit était formidable, mais il faisait penser au rire d'un géant, ou plutôt aux ébats de toute une bande de géants qui auraient ri, dansé, chanté, vociféré, clamé leur joie devant la grandeur de ce qu'ils avaient accompli. Près de l'endroit où l'eau se déversait dans le lac, un arbre avait poussé. Tout humide de l'eau qui rejaillissait constamment de la chute, à demi caché derrière un rideau d'écume, il brillait de l'éclat mobile que lui donnaient d'innombrables oiseaux voletant parmi ses branches. Son feuillage mouvant, énorme comme un de ces brouillards qui paraissent au-dessus d'un marécage, prenait toutes les formes possibles. Un peu partout, entre les feuilles, scintillait une multitude de pommes d'or. Soudain, mon attention fut attirée par un étrange phénomène. Un buisson d'aubépine, qui se trouvait à 20 mètres environ, semblait bouger et prendre des attitudes bizarres. Mais bientôt, je m'aperçus qu'il ne s'agissait pas du buisson lui-même, mais de quelque chose qui se trouvait juste à côté. Et finalement, je réalisai que ce quelque chose était un des fantômes de notre groupe. Il s'était accroupi comme s'il avait voulu se cacher de quelqu'un placé derrière le buisson. Et il me regardait en me faisant des signes, comme pour m'inviter à me baisser, moi aussi. Mais rien d'inquiétant ne se montrait, et je restais debout. Ayant d'abord jeté un regard circulaire, le spectre quitta son buisson et s'aventura un peu plus loin. Il ne pouvait pas progresser très vite à cause des herbes rigides qui le mettaient à la torture, mais on voyait qu'il s'efforçait d'atteindre un autre arbre aussi vite que possible. Arrivé là, il s'arrêta de nouveau et se dressa cette fois tout contre le tronc, comme s'il cherchait par là à se dissimuler. Il était maintenant à l'ombre des branches et je distinguais mieux ses traits. C'était un de mes compagnons de route, celui qui portait un chapeau melon et que le colosse avait appelé Ikei. Il mit environ 10 minutes à reprendre haleine. Puis, après avoir soigneusement parcouru des yeux le terrain, il se rua sur notre arbre, pour autant qu'il lui fût possible de se ruer. Au prix d'un labeur infini et en prenant 1000 précautions, il lui fallut environ 1 heure pour atteindre le grand arbre dont j'ai parlé, ou du moins pour arriver à 10 mètres de son but. Mais là, il dut s'arrêter. Au pied de l'arbre, une ceinture de lys opposait au fantôme un obstacle insurmontable. C'était comme s'il avait dû traverser un champ semé d'obstacles antichars. Il se mit alors à 4 pattes et tenta de se faufiler en rampant entre les fleurs. Mais celles-ci étaient trop serrées et elle ne voulait pas s'écarter. Pendant tout ce temps, le spectre paraissait hanté par la crainte d'être découvert. Au moindre souffle de vent, il s'arrêtait et rentrait la tête dans les épaules. Le vol d'un oiseau le fit même retourner à sa dernière place pour s'y cacher. Mais son désir d'approcher de l'arbre était tel qu'il reprit bientôt son manège. La frustration était si grande que je le vis joindre les mains et se crisper tout entier dans une véritable agonie. Le vent semblait se lever. Je vis le spectre secouer une main et se mettre à sucer l'un de ses pouces. Celui-ci avait dû être cruellement coincé entre 2 tiges de lys que le vent agitait. Bientôt, ce fut une véritable bourrasque, et les branches du grand arbre en furent toutes secouées. Tant et si bien qu'une 30 douzaine de pommes tombèrent sur le spectre et autour de lui. Il laissa échapper un cri de douleur, mais l'étouffa aussitôt. Il me semblait que le poids des pommes d'or était tel qu'une seule en tombant sur lui aurait dû le mettre hors de combat. Et de fait, il fut d'abord incapable de se relever et resta là, gémissant à se masser les membres. Mais bientôt, il se remit au travail. Fiévreusement, il tentait de remplir ses poches de pommes. Efforts inutiles, cela va sans dire. Progressivement, ses ambitions se firent plus modestes. Il abandonna d'abord l'idée de remplir ses poches. 2 pommes devraient suffire. Puis il abandonna même cette idée et voulut se contenter d'une seule, la plus grosse. Il dut alors y renoncer et se mit en quête de la plus petite afin de voir si celle-là, au moins, il serait capable de la transporter. L'étonnant est qu'il y réussit. Je me rappelais la feuille de hêtre que j'avais essayé en vain de soulever du sol et je ne pus qu'admirer le malheureux lorsqu'il se redressa péniblement,
la petite pomme entre les mains. Éclopé comme il l'était, du fait des coups qu'il avait reçus, le poids de son précieux fardeau le pliait en deux, centimètre par centimètre, et cherchant toujours à se dissimuler derrière le moindre objet capable de l'abriter, il poursuivit sa route, un vrai chemin de croix, dans la direction du bus, serrant entre ses mains l'instrument de sa torture. « Imbécile ! Laisse tomber ça !» clama soudain une voix puissante, toute différente de celle que j'avais entendue auparavant. Elle avait le son du tonnerre, et en même temps paraissait comme liquide, et je connus alors, avec une effrayante certitude, que c'était la chute d'eau elle-même qui parlait. Tout en gardant l'apparence d'une chute d'eau, je vis que c'était aussi un ange resplendissant, dressé contre les rochers dans l'attitude d'un crucifié et se déversant sans cesse vers la forêt avec une joie retentissante. « Imbécile !» reprit la voix. « Laisse-la tomber. Tu ne peux pas la rapporter chez toi. Il n'y a pas de place pour elle en enfer. Reste ici et apprends à manger ce genre de pommes. Les feuilles elles-mêmes et les brins d'herbe seront heureux de t'apprendre à le faire. » Le fantôme entendait-il ? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'après s'être reposé durant quelques minutes, il banda de nouveau toutes ses forces et reprit sa route avec des précautions accrues jusqu'à ce que je l'eusse perdu de vue.